Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité, il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines apparaissent, aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur.
Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint, et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël. » En leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée Après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction, l'Esprit Saint, et depuis Dieu lui a donné l'onction, l'Esprit Saint, et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur.
Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. »
Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur.
Les enfants du primaire sont attendus par le Père Chauvin. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. En ce jour où nous célébrons le baptême du Seigneur, nous entendons Jean s'exclamer dans l'évangile de ce jour, du moins être étonné. Oui, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Oui, face à Jésus qui se met dans le rang des pécheurs pour venir se faire baptiser, Jean est dérouté. Et de fait, avec juste raison, puisque Jésus est le Fils de Dieu, il n'est pas pécheur. Or, on sait bien que le baptême que donne Jean, c'est un baptême de conversion, dont ceux qui ont commis des péchés et qui ont besoin de changer de vie pour retrouver le chemin de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, manifestement n'a pas besoin de ça, et pourtant il se retrouve au milieu des pécheurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie la démarche de Jésus dans le contexte de la célébration du baptême? Qu'est-ce que cela nous donne de comprendre du baptême? Le premier indice nous vient de la réponse que Jésus lui-même donne à Jean. Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Que nous accomplissions toute justice. Dans la Bible, celui qui est juste, c'est celui qui agit en conformité avec la volonté de Dieu. Et le mot justice ici, donc, signifierait que Jésus demande à Jean que tout cela soit fait conformément à la volonté, on peut dire même au projet de Dieu. Et quel est ce projet de Dieu? Il nous est annoncé dans la première lecture par le prophète Isaïe. Nous y entendons que Dieu choisit quelqu'un pour une œuvre particulière. Voici ce qui est dit. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. » Quand nous entendons cette phrase, ça nous projette directement au baptême de Jésus. Voilà, une voix qui se fait entendre. « J'ai fait reposer sur lui mon esprit, l'esprit qui descend sur Jésus. » Il y a donc une vraie correspondance entre ce qu'annonce Isaïe et ce que Jésus réalise au baptême. On peut dire que Jésus est bien concerné par cette prophétie. Il est ce serviteur annoncé. Frères et sœurs, la suite nous éclaire davantage. Que nous dit donc Isaïe à propos de la mission du serviteur? Aux nations, il proclamera le droit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Dans cette citation, par trois fois revient le mot droit. Dans la Bible, quand on parle de l'exercice du droit, cela a trait habituellement à Dieu. Et quand on dit que Dieu exerce son droit, généralement, c'est pour faire un jugement ou une condamnation. Et ici, on nous dit que l'exercice du droit, c'est l'activité principale de la mission du serviteur. Or, étonnamment, dans la suite de l'annonce, on ne voit rien qui ressemble à un jugement ou à une condamnation. Au contraire, il n'est question que de douceur et de respect pour tout ce qui est fragile. Voici ce que dit le prophète en parlant du serviteur et de sa mission. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Puis, le Seigneur lui-même parle. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Le serviteur qui vient agir au nom du Seigneur, n'a d'autre mission que, on va dire, une mission de soin. Une mission qui consiste à assurer une présence effective et bienfaisante de Dieu. Et cela nous donne, bien sûr, de découvrir à travers le baptême, la célébration du baptême du Seigneur et même la démarche de Jésus, ce que son baptême signifie concrètement. S'il se met dans la file des pécheurs, lui, le serviteur de Dieu, c'est pour être encore plus proche des pécheurs. Voilà, ce qu'on célèbre dans tout baptême, on peut dire, c'est cette proximité de Dieu. Une proximité qui sauve, qui révigore, qui relève. Et quand Jésus lui-même décide donc de plonger dans l'eau bouée du Jourdain, il se fait encore solidaire de notre condition humaine et il concrétise par là, on va dire, cet engagement de Dieu aux côtés de l'homme qui est aux prises avec le péché. Il concrétise cet engagement annoncé par le prophète. Je vais être au plus proche, au plus près de vous. Jésus, en descendant dans les eaux du Jourdain, on voit bien ce mouvement. Voilà, on peut dire qu'il descend dans les profondeurs de notre misère humaine pour justement nous purifier avec ses eaux et nous relever. Tout simplement, on peut dire que dans le baptême que nous recevons, Jésus veut nous rendre la véritable dignité humaine, celle de notre vocation à devenir enfant de Dieu. Et c'est ce qu'exprime bien sûr sa solidarité, mais qui signifie aussi que dans cette mission, ou du moins dans cet engagement de Dieu à être au plus près de nous et à nous apporter son salut, Dieu ne veut jamais faire le salut sans nous, il veut le faire avec nous. Voilà pourquoi Jésus est au milieu de cette foule, pour accomplir cette grande œuvre de Dieu. La démarche de Jésus nous renvoie ainsi, on peut dire, à l'essence même de notre baptême et bien sûr à la mission qui en découle. Dans la deuxième lecture, quand Saint-Pierre prêche à Corneille aux siens, il rappelle l'essentiel de l'activité de Jésus en mentionnant que cela prend tout son sens à partir de son baptême. C'est à partir du baptême de Jésus que s'est déployé, on va dire, tout le mystère du salut pour l'humanité. Oui, Jésus de Nazareth disait, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et des puissances. Là où il passait, il faisait les biens et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Oui, Dieu était avec lui après son baptême. Nous l'avons vu dans le récit, hein, l'Esprit Saint qui descend, la voix du Père qui s'exprime. Dans cet enseignement, Pierre nous dit que ce qui est reçu au baptême, c'est l'Esprit. L'Esprit Saint souffle de Dieu et force de vie qui incite à agir comme Jésus. Il faisait le bien partout où il passait. En célébrant la fête du baptême du Seigneur, on peut tout simplement comprendre que le jour de son baptême, en se mettant dans la file des pécheurs, Jésus inaugure son ministère. Mais il inaugure son ministère surtout en prenant la tête de cette multitude de frères et sœurs baptisés et qui ont reçu la mission du Seigneur d'être des porteurs d'espérance et surtout des acteurs de la charité. L'ouverture des cieux, la descente de l'Esprit Saint sous forme de colombe sur Jésus et la voix du Père qui se fait entendre, tout ceci manifeste la présence et l'implication directe de la Trinité dans l'acte de baptême. Oui, le jour de notre baptême, c'est Dieu Père et Fils qui vient résider en nous. Et on peut même parler de, voilà, je vais dire, d'union avec la Trinité, puisqu'elle est réellement présente. On peut oser même davantage parler d'interpénétration de l'être de Dieu avec notre être. Parce que c'est en cela que Dieu accomplit son œuvre, et c'est en cela qu'il nous fait devenir fils et ses fils et filles. Faisons une réflexion justement sur cet événement tellement grandiose pour nous, qui passe souvent au-dessus de nos têtes. Le cardinal Sarah écrit « Être inscrit dans les registres de sa paroisse, porter le nom de chrétien sans vivre son baptême, participer à des rites sans les faire passer dans sa vie, rester étranger au contact personnel avec Jésus, ne pas s'engager dans une véritable amitié avec Dieu, c'est rendre vain et stérile notre christianisme. » Nous aurons compris, dans l'acte du baptême, nous sommes en contact direct avec Dieu. Dieu dépose directement sa grâce en nous. Et il faut en prendre conscience, c'est un don, un véritable don, un grand cadeau qui nous est fait. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Là est la question. Qu'est-ce que nous en faisons quand nous avons reçu cette grâce du baptême? Il est dit de Jésus, partout où il passait, il faisait le bien. Mais en même temps que nous comprenons que ce n'est pas nous qui nous faisons chrétiens. D'ailleurs, la première lecture le rappelle. Voici mon élu, voilà, celui qui a été choisi. Oui, je suis appelé dans le baptême par Dieu, pris par la main et illuminé justement par lui. Le serviteur qui vient de la part de Dieu fait sortir les gens de prison pour les amener à la lumière. Oui, je suis illuminé par Dieu, mais c'est par mon consentement à cette action divine que je deviens chrétien. Je l'ai rappelé, Dieu ne veut pas faire sans nous. Et dans le baptême, nous sommes justement en collaboration avec Dieu pour que la grâce puisse produire en nous les fruits escomptés, pour que nous puissions réellement devenir fils et filles de Dieu. José María Escrivá écrivait à propos du baptême. Être chrétien n'est pas quelque chose d'accidentel. C'est une réalité divine qui s'insère au plus profond de notre vie en nous donnant une vision claire et une volonté résolue d'agir comme Dieu veut. Oui, une volonté résolue d'agir comme Dieu veut. Parce que dans le baptême, nous accueillons bien sûr cette volonté. Ce privilège, frères et sœurs, exige bien sûr une démarche particulière. Et là encore, Jésus nous donne l'exemple de quitter la Galilée jusqu'au bord du Jourdain. Par cette démarche, déjà il inaugure, je vais dire, il nous introduit dans cette notion de renoncement. Renoncement, bien sûr, je dirais, à nos péchés, renonciation à ma prétention d'autonomie vis-à-vis de Dieu. C'est ce que, dans les liturgies baptismales, nous appelons renonciation à Satan, à ses séductions et à ses œuvres. Comme le dit la sagesse, le miel est une chose, mais le prix du miel en est une autre. Oui, le bain du baptême que nous recevons a pour effet de faire de nous des hommes nouveaux. Toutefois, nous l'aurons compris dans cette démarche de Jésus, il incombe à chacun de nous de se renouveler quotidiennement par une vie de fidélité à ses promesses baptismales. Oui, il ne faut pas que la grâce qui nous a été donnée, que ce soit comme un dépôt que l'on met en banque et qu'on ne touche pas. La grâce qui nous est donnée, elle est faite pour nous faire vivre. Elle est faite pour nous guérir de nos péchés. Elle est faite pour nous relever quand nous chutons. Donc, il faut user de cette grâce qui a été mise en nous. Nous savons ce que cela signifie. Oui, frères et sœurs, être baptisé, c'est donner à son effort de conversion un caractère tangible. C'est prendre des moyens concrets pour replacer Dieu au centre de nos préoccupations. Puis on l'a dit, c'est Dieu avec nous comme nous l'avons célébré à Noël. Dieu qui se veut au plus près de nous dans notre vie. Si Jésus est fils bien-aimé en qui Dieu trouve sa joie, c'est bien sûr parce qu'il fait la volonté de Dieu. Et en nous rappelant notre baptême, en nous rappelant que la démarche de Jésus est exemplaire pour nous, nous sommes invités nous aussi à accueillir cette volonté, parce que nous sommes nous aussi les fils bien-aimés de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Par le baptême, nous incombe désormais aussi la mission de salut, celle du serviteur, celle de faire le bien partout où nous sommes, celle d'être de ceux qui redressent le roseau froissé, qui protègent et entretiennent la mèche qui faiblit. En d'autres termes, frères et sœurs, il s'agit pour nous en tant que baptisés de prendre soin de la fragilité des autres sans les condamner ni les mépriser. Parce que dans la démarche que fait Jésus en se mettant au milieu des pécheurs, je dirais, contrairement à l'idée du droit qui est de condamner, il nous fait saisir toute la patience de Dieu envers le pécheur. Et nous sommes invités à entrer, nous aussi, dans cet esprit. Oui, puisque nous sommes unis à la Trinité, nous sommes invités à vivre et à agir comme Dieu. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et Saint Luc dira, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Ce qui signifie, frères et sœurs, que nous aurons beau être chrétiens baptisés, nous aurons beau être loyaux aux doctrines de l'Église, si nous sommes incapables de compassion pour notre prochain comme Dieu nous le demande, nous ne sommes pas véritablement ses fils. Oui, nous aurons beau être attachés aux règles de notre Église, nous aurons beau être à toutes les messes la semaine et le dimanche, si nous sommes incapables de miséricorde envers notre frère comme Dieu nous le demande, nous ne sommes pas encore les enfants de Dieu. Oui, le baptême nous pousse, du moins la grâce du baptême nous invite à vivre concrètement de l'Esprit de Dieu, les uns avec les autres. Oui, la liturgie de ce dimanche nous invite à considérer le baptême comme un envoi en mission, une manière neuve d'envisager nos relations fraternelles, une manière neuve d'envisager aussi la manière de transmettre la bonne nouvelle, puisque en tant que baptisés, nous sommes envoyés dans le monde, parce que dans la première lecture, nous l'avons entendu aussi, « Je t'ai choisi pour que tu sois la lumière du monde ». Nous sommes la lumière du monde, qui brille au milieu des ténèbres. Oui, une nouvelle manière d'annoncer la bonne nouvelle, qui n'est pas celle de la contrainte, qui n'est pas celle qui veut obliger, mais elle est celle qui propose, comme Dieu le fait dans la première lecture, celle de la douceur, du respect et du dialogue. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin, dit un adage. Le baptême de Jésus qui s'est fait solidaire de notre humanité nous montre que le baptisé n'est pas une personne isolée, ou du moins la vie du baptisé ne se mêle pas seule. La foi chrétienne se vit les uns avec les autres. Et il me semble que cette dimension de notre foi, de notre vie de baptisé, elle est à remettre, je dirais, au centre de nos préoccupations dans notre monde d'aujourd'hui, où de plus en plus nous sommes tournés vers nous-mêmes et non pas les uns vers les autres. Dans ce monde, nous tournons le dos les uns aux autres. Jésus nous l'a dit, il nous l'a enseigné. Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire qu'ils sont tournés les uns vers les autres. Quand nous sommes tournés les uns vers les autres, Dieu est vraiment présent avec nous et il agit avec nous. C'est donc une invitation en ce jour à cultiver non seulement l'attention les uns envers les autres, mais à cultiver aussi l'esprit de famille, qui est le meilleur témoignage et la meilleure réponse à apporter à notre monde d'individualisme et d'égoïsme. Et bien sûr, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer sur ce chemin, gardons en mémoire ce que dit cette sagesse. Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par sa force, mais par sa persévérance. Demandons au Seigneur qu'en tant que baptisés, nous soyons persévérants dans notre vie baptismale. Accorde-nous, Seigneur, de vivre vraiment de la grâce de notre baptême, afin d'en recueillir les fruits pour la vie éternelle, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.